de France.
Forte présence musicale ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question des Andes, de Bissau, d'Edouard Glissant, de Super Mama Jumbo, de Symphonie du Jaguar et même d'oiseaux innumérables. Avec le pianiste et compositeur Thierry Pécou à l'affiche de la 25e édition du festival Présence de Radio France, portrait d'un compositeur voyageur, Lucille Comeau.
Les titres de ces pièces étonnent, Symphonie du Jaguar, Fille du Feu, Vague de Pierre ou comment dessiner une vaste cosmogonie musicale.
19h30, place nette, Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile. Ce soir au programme, Xavier ?
Du bricolage.
Chaque fois, je me fais surprendre. 19h35, plateau Bissau, avec vous, Sylvain Prudhomme. Vous signez Les Grands, un roman d'une journée historique en 2012 en Guinée. Un travail qui mêle fiction, histoire politique et répertoire musical, Lucille Comeau.
Retour sur le parcours d'un écrivain collectionneur dont le roman, de très géographique et documentaire qu'il était, verse de plus en plus résolument dans la fiction.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre sur le son du jour.
L'entrepôt que vous voyez est l'entrepôt où a été donné l'assaut. Et on entend les détonations sourdes hein, qui proviennent de l'entrepôt où visiblement l'assaut a été donné. On est à Damartin, en Seine-et-Marne. C'est là que sont retranchés les deux frères Kouachi depuis ce matin, depuis le milieu de la matinée, depuis 10h ce matin. Donc forte détonation, messieurs, vous qui avez coordonné les luttes, les nuages. C'est quoi ? Ce sont des fumigènes qui ont été envoyés, des grenades ?
Des lacrymogènes.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent Gomard, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et il est parfaitement identifiable.
Tout à fait, il date du 11 janvier dernier, c'est au moment de l'assaut qui est donné contre les frères Kouachi. Il vient d'être lancé et on le suit donc en direct sur BFM TV. BFM TV qui vient d'être mise en demeure par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, avec 20 autres médias français pour, je cite, des manquements graves dans la couverture des attentats de janvier, notamment justement pour avoir annoncé cet assaut donné contre les frères Kouachi. Alors qu'Amédi Coulibaly retenait encore cet otage porte de Vincennes à Paris et qu'il avait dit vouloir lier leur sort à celui des frères Kouachi. 13 médias sont donc concernés, BFM TV, Euronews, France 2, France 24, iTélé, LCI, TF1, Europe 1, France Info, France Inter, RFI, RMC, RTL, France 5 et Canal+, et France 3, elles font l'objet seulement de mises en garde en avertissement un peu moins sévère. Je rappelle que les mises en garde et les mises en demeure ne sont vues de sanctions, par exemple par une amende ou par une lecture de communiqué à l'antenne, que quand les médias réitèrent le même manquement, indique le CSA.
On passe maintenant au dossier du jour consacré au théâtre de création parisien, La Loge. C'est un théâtre créé en 2009, un petit théâtre qui est menacé de fermeture car il est en déficit de 40 000 euros. En effet, La Loge reposait sur un modèle économique assez fragile, mais qui lui a permis en 6 ans de devenir un lieu indispensable à la jeune création.
Tout à fait, ce sont deux jeunes programmateurs très jeunes, hein, 28 et 29 ans, Alice Vivier et Lucas Bonifay, qui ont fondé cette salle en 2009. En partant d'un constat, c'est très très dur pour des jeunes compagnies ou des jeunes musiciens de démarrer tout simplement à Paris, puisqu'il faut déjà avoir été repéré pour espérer jouer sur une scène publique, mais que se produire dans les salles privées, c'est tellement cher que c'est souvent à perte. Alors le modèle de La Loge, une salle petite, 70 personnes, des spectacles co-réalisés, puisque les compagnies ne payent pas la location de la salle, mais ils perçoivent 50% de la billetterie et bénéficient souvent d'un temps de résidence pour leur création, donc des longues répétitions, des conditions uniques qui font de La Loge un véritable tremplin pour la metteuse en scène Julie Duclos. Son spectacle se joue en ce moment au Théâtre de la Colline, mais elle a commencé au Théâtre de La Loge.
Toujours quand on commence, on fait avec la chaise chez soi, enfin le décor c'est des bouts de... Donc on est toujours comme ça un peu à l'arrache, et déjà le fait qu'il n'y ait pas de minimum garanti, enfin à La Loge on pouvait même se rembourser, c'était énorme. C'est-à-dire, on récupérait quand même une partie de la recette et c'était pas rien. Oui. Ça a été vraiment le premier lieu où on a joué. Et puis derrière, eh ben, on a pu aller au théâtre de Vanves, jouer au théâtre de l'Opprimé. Enfin, ça s'est fait, ça se fait toujours par ricochet d'un projet à l'autre. Donc ça a vraiment commencé à La Loge pour moi.
La Loge est en réalité aujourd'hui victime de son succès.
Oui, avec 300 spectacles en 6 ans, 80% de créations qui ont été proposées à 77 000 spectateurs. La Loge bénéficie aujourd'hui vraiment d'une réputation très établie de pépinière de jeunes talents auprès de tous les programmateurs. Alors je vous donne quelques noms des gens qui y ont débuté. Côté musique, Christine and the Queens, Mina Tindall, Feu Chatterton ou encore Fauve. Et concernant le théâtre, on a vu émerger Julie Duclos, donc Nicole Genovese, Laurent Bazin, Marie Payen et j'en passe.
Das Plateau,
tout à fait. Problème, le succès aidant, eh bien, la structure se complexifie, il faut engager du monde et la loge creuse son déficit. Aujourd'hui, elle a besoin de soutien institutionnel pour survivre. D'autant qu'elle le sait, il y a beaucoup de salles à Paris, mais elle est vraiment l'une des seules à assurer ce genre de mission, comme l'expliquent donc ses fondateurs Alice Vivier et Lucas Bonifay.
On a fondé cet endroit parce qu'on avait envie d'avoir un lieu dédié à la jeune création, un lieu et quatre murs où l'on puisse accueillir de jeunes artistes en théâtre comme en musique et leur donner la possibilité de travailler et de jouer dans des conditions qui ne les mettent pas en danger financièrement, c'est-à-dire en partageant les recettes avec eux, sans location de salle, sans minimum garantie. Il n'y a pas lieu à Paris qui accueille deux jeunes compagnies dans des conditions honnêtes en leur proposant quatre murs, un endroit où créer, un endroit où être diffusé.
Et surtout qui permettent à toute la profession en fait, de faire leur marché et d'ensuite alimenter les salles et puis la proposition culturelle à Paris et en Île-de-France de manière générale. Quoi.
La loge demande donc de l'aide à son public, mais aussi à la ville de Paris.
Oui, alors les deux créateurs ont lancé une collecte sur le site Hello Asso, qui a déjà permis de collecter 5000 euros pour remplir ce trou. Mais en fait, la loge a besoin d'une aide structurelle pour survivre. L'Île-de-France leur refuse toute aide. Et la mairie de Paris, qui les aide déjà à hauteur de 20 000 euros par an, promet de se pencher sur leur cas, comme l'explique Sophie Zeller, sous-directrice à la création artistique aux affaires culturelles de la ville de Paris.
En effet, on l'aide déjà, puisqu'on verse 20 000 euros et que cette somme a été augmentée en 2014, puisqu'on est passé de 15 000 à 20 000 euros. Donc, bien sûr, on examine leur dossier très précisément. On est tout à fait prêt à organiser une réunion pour approfondir les éléments de diagnostic qu'eux mettent dans l'appel au secours qu'ils ont adressé au grand public. Donc, oui, on y est très attentif. Le fait que ce soit une petite jauge rend aussi l'économie du lieu assez fragile, assez précaire, puisque les recettes de billetterie d'une toute petite salle ne peuvent pas être très importantes. Donc on suit leur situation. Après, voilà, il y a aussi un tour de table à faire avec l'ensemble des partenaires sur le territoire parisien pour essayer de consolider cette situation et de voir comment on peut les accompagner au mieux.
De leur côté, les partenaires de la loge, des grands théâtres parisiens comme Parisien ou d'Île-de-France comme Vanves, La Colline et en tête le théâtre du Rond-Point qui s'appuient sur cette salle pour repérer des jeunes compagnies, vont lancer la semaine prochaine une campagne pour soutenir cette petite salle.
Et tout de suite, eh bien, on passe aux brèves, Zoé.
Et l'on ouvre avec ces deux momies retrouvées près d'un fleuve en Égypte, aux abords du village de Minya, enveloppées dans du lin. Ces vestiges antiques qui datent de l'époque gréco-romaine ont été découverts avec leur sarcophage. Leur séjour prolongé dans l'eau les a irrémédiablement abîmées. Selon le ministère égyptien, elles ont probablement été découvertes par des pilleurs, puis abandonnées pour ne pas se faire repérer. Ou alors, tout simplement, ces pilleurs n'ont pas su reconnaître la valeur culturelle de leur découverte.
L'Institut du monde arabe lance un jeu vidéo.
Il s'appelle Medelia, il est disponible sur tablette et sur smartphone. Il est proposé donc aux enfants de 7 à 11 ans pour qu'ils découvrent le monde merveilleux de la Méditerranée au Moyen-Âge, précisément du 6e au 15e siècle. En étant donc le héros, on va pouvoir se balader dans différents mondes qui correspondent à des villes, Constantinople, Cordoue ou encore Kérouan.
On tue des gens dans ce jeu vidéo ?
Je crois qu'on parle avec eux, tout simplement. C'est un jeu vidéo mignon.
Voilà. Mads Nissen remporte le World Press Photo.
Le prix le plus prestigieux en matière de photojournalisme, une photo qui immortalise un couple de jeunes homosexuels en Russie. L'image a été prise dans le cadre d'un reportage intitulé « Homophobie en Russie ». Je rappelle que les homosexuels y subissent des violences régulières, tolérées voire encouragées par les autorités russes. En tout, 100 000 photos concouraient pour ce prix, mais près d'un million d'entre elles ont été éliminées car elles avaient été retouchées.
Et la dernière ?
La dernière, c'est une histoire de conception divergente de l'art ou de fontaines qui changent de couleur. Elle se passe en Moselle. Et l'on apprend aujourd'hui, oui, que le peintre et sculpteur Alain Mila assigne la ville d'Eyange devant la justice, donc en Moselle. Il lui réclame 10 000 euros de dommages et intérêts, car en effet, il y a 10 ans, Alain Mila a réalisé une jolie fontaine en granit pour cette ville, œuvre dans laquelle il s'est investi, il a mis toute sa conception artistique. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'Eyange est devenu Front National et que l'une des premières décisions du maire a été de repeindre cette fontaine en bleu ciel. Une dénaturation totale de son œuvre pour Alain Mila, qui rappelle qu'en vertu du code de la propriété intellectuelle, c'est complètement interdit de modifier une œuvre sans l'accord de son auteur. Le maire frontiste, lui, ne voit pas, je cite, « ne comprend pas qu'on fasse tout un pataquès pour cette œuvre qui, selon lui, a été une œuvre que tout le monde trouvait affreuse depuis le début. » Et il dit qu'en repeignant cette fontaine en bleu, il a voulu tout simplement égayer égayer la ville et faire plaisir aux habitants. Alors quand l'affaire avait éclaté à l'été 2014, même la ministre de la Culture de l'époque, Aurélie Filippetti, s'en était mêlée en dénonçant une violation manifeste du droit moral et des règles élémentaires de la propriété intellectuelle. Le maire avait donc commencé à décaper la fontaine en bleu, mais dès que l'attention médiatique s'était détournée, il avait arrêté de la décaper, ce qui faisait qu'elle était à moitié granit, à moitié bleu. C'était encore pire qu'avant comme résultat. Alors vu qu'il y a cette action en justice, un compromis devrait être trouvé. Le maire a promis de déplacer la fontaine dans un parc un peu plus isolé en lui rendant sa couleur d'origine.
Eh bien, voilà des informations.
Vous avez vu ça ?
Vous êtes fiers de vous ?
Très.
Comme toujours. Est-ce qu'il y a des réactions de la part de nos deux invités, Sylvain Prudhomme et Thierry Pécou ? Non. oui, allez, Sylvain Prudhomme.
Non. Le décapage de fontaine est, doit pas être facile. Enfin, doit être.
C'est une très, très difficile.
Ouais. Je pense que c'est une discipline. Ouais.
Oui, c'est un vrai investissement dans l'éducation. Je pense la peindre et la décaper. Oui, il y a un petit peu de mauvaise foi, je pense.
Je pense de tous les côtés. Thierry Pécou.
Non, là, j'aime beaucoup les fontaines. Alors, voilà. Ça me fait rêver un peu, même si c'est assez étonnant comme histoire.
Le rendez-vous.
Plateau, laissez faire au voyage avec vous Thierry Pécou, compositeur et pianiste avec une particularité, vous écrivez de la musique en lien avec vos nombreux voyages, inspirés par des traditions multiples, créoles, chinoises, andines, précolombiennes et sous toutes les formes, hein, symphonie, musique de chambre, pour ensemble, vocal, etc. On entend quoi derrière nous ?
On entend des flûtes.
Ouais, et plus précisément ?
Je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'on...
Je pense que c'est une pièce de vous.
Ben oui, moi aussi je pense que c'est une pièce de vous.
Oui,
vous ne la reconnaissez
vous, mais
même pas.
Je pense qu'elle est assez ancienne. Pour métronome et trois flûtes.
Alors, je pense que
trois
c'est
trois flûtes alto.
C'est vrai ? C'est une erreur ?
Non, c'est pas...
Alors, c'était dans un disque où il y a d'autres pièces. C'est le trio d'argent, probablement.
On va essayer de vérifier. Ouais, c'est le trio d'argent, fait un signe notre réalisateur. Faute professionnelle, on
mais
continue.
C'est très joli quand même.
C'est très joli. Vous êtes à l'affiche du Festival de
Cannes. J'aurais beaucoup aimé l'écrire. L'autre.
Non, ne dites surtout pas ça. Ne dites surtout pas ça. Vous êtes à l'affiche du Festival de création musicale Présence qui se tient ici à la Maison de la Radio jusqu'au 21 février. Et vous serez en concert, pas du tout avec cette pièce, ce samedi au Studio 105 avec l'ensemble Variance. Le thème du festival cette année, c'est les deux Amériques. Et votre programme s'appelle Cri selon Cri. Jusque-là, tout va bien ?
Oui.
D'abord, un mot sur ce titre. Que serait le cri dans le langage de la création musicale contemporaine, Thierry Pécou ?
Eh bien, je trouve que le cri, c'est, pour moi, c'est un peu la cellule primitive de la musique, en quelque sorte. Évidemment, on pense au cri de l'enfant qui naît, et c'est la première manifestation musicale, on pourrait dire, au sens premier. Et donc, je trouve ça, j'ai toujours été fasciné par la manière dont, dans la musique et dans la façon d'élaborer le cri, on trouve cette sorte d'impulsion primaire, souvent dans beaucoup d'œuvres.
Vous pensez à quelles œuvres, par exemple ?
Je me suis intéressé, justement, j'ai cherché dans des pièces. Alors, bon, il se trouve qu'elle n'est pas dans le programme, mais je la cite, par exemple, la Sequenza pour hautbois ou pour saxophone de Berio, où il y a comme ça une multitude de cris. Et puis, évidemment... moi, le cri, il est très présent aussi dans mon propre travail, notamment à travers l'intérêt que je porte aux cultures amérindiennes et au fait que le cri devient une sorte de le cri d'appel, le cri qui nous ramène à la fois à la terre et à l'espace, en quelque sorte.
Lucille Comeau.
Vous et surtout, vous le disiez, l'Amérique du Sud qui vous intéresse, et puis les sociétés précolombiennes et amérindiennes en particulier. Quelles seraient, au-delà peut-être du cri, les spécificités rythmiques et mélodiques de ces musiques-là, s'il y a une cohérence géographique ?
Alors, c'est très difficile de trouver une cohérence, en fait, parce que c'est vrai que sur ce continent, il y a vraiment des apports très, très divers. Évidemment, il y a les cultures autochtones, donc les cultures amérindiennes, desquelles on a beaucoup perdu de matériaux. C'est-à-dire on ne sait pas vraiment ce que certaines musiques ont vraiment disparu, ou quasiment. Et elles se sont beaucoup transformées au contact des Européens, des Espagnols, des Anglais, etc. Ensuite, il y a l'apport européen et puis l'apport africain. Donc, c'est chaque culture, finalement, a une manière de concevoir le rythme qui est très différente. Par exemple, on pense à l'Afrique et la notion de syncope qui n'existe pas du tout dans les musiques amérindiennes. Et donc, en même temps, il y a certains points de rencontre qui font que tout d'un coup, il y a des choses qui se passent et qui créent des langages nouveaux, tout simplement.
Comment vous allez chercher ces sons ? Est-ce que vous êtes sur place avec des musiciens ? Vous trouvez ça dans des disques ? Est-ce que vous menez un travail d'ethno ? Musicologie, en fait ?
Alors non, surtout, je ne me considère pas du tout comme ethnomusicologue. Par contre, il y a différentes approches. Il m'est arrivé vraiment de vivre des moments forts en assistant à des rituels de Santeria, par exemple, à Cuba, d'aller dans des fêtes, je pense au Mexique, autour de la fête des morts, par exemple. Donc d'entendre vraiment des musiques et puis de les ressentir et ensuite de les traduire dans ma musique d'une manière plus personnelle, de les enregistrer, d'analyser ensuite les matériaux et puis de les transformer. Et puis il m'arrive aussi tout simplement de lire des livres, d'utiliser des matériaux analysés par des musicologues ou bien aussi d'écouter des enregistrements, des disques, et puis de travailler avec tout ça, et parfois de mélanger les deux choses, bien sûr.
Sylvain Prudhomme, on parlera tout à l'heure de votre roman. Vous connaissez un peu l'univers musical de Thierry Pécou ?
Alors un petit peu, moi j'avais il y a un disque que j'avais écouté il y a quelques années qui était Outre Mémoire, un projet je crois que c'était Alexandre Tarot qui jouait, et en fait voilà j'avais rencontré la musique de Thierry Pécou par cet intermédiaire, enfin oui, j'avais été très j'avais beaucoup aimé cette une sorte d'intensité calme et par moments de flamboiement. Là quand j'ai vu les titres des pièces qui vont être jouées, j'ai vu qu'il y avait Soleil Feu. Je sais pas si ça va être joué ou si c'est une pièce récente.
Ça sera joué samedi.
Voilà, et je trouve ce titre magnifique, et je trouve qu'il allait ça correspond bien aux souvenirs que j'avais de ces pièces, enfin de certaines pièces en tout cas. Ouais.
Oui, c'est ça, Outre Mémoire, c'était une grande partition qui évoquait donc la traite négrière qu'on avait conçue avec Alexandre Tarot et puis le plasticien Jean-François Beauclet. Et l'idée, effectivement, c'était de rendre compte, d'évoquer cette tragédie humaine qui a traversé les siècles, mais d'une manière plutôt intériorisé, c'est-à-dire il ne s'agissait pas de déverser tout le pathos qu'on pourrait imaginer à sentir la douleur de cette chose, mais c'était plutôt de s'arrêter comme une sorte de grande prière de réflexion, en fait, d'intériorisation du fait historique, et en même temps de lui donner toute son intensité, justement, en construisant une grande forme comme ça qui nous faisait finalement faire le voyage, entre guillemets, c'est-à-dire ce voyage tragique des Africains transportés de l'Afrique vers l'Amérique.
Lucille.
Thierry Pécou, vous venez d'une famille d'origine antillaise. Quelle était la musique qu'on écoutait chez vous ?
Alors, curieusement, pas du tout de la musique antillaise. Moi, je sais que dans ma famille, on était à la fois très... on aimait la musique classique, tout simplement, du côté de ma mère, notamment mon grand-père et une de mes tantes qui était pianiste, donc qui jouait tout le répertoire romantique que je n'ai jamais entendu jouer, à vrai dire, mais, parce qu'elle est morte quand j'étais très, très petit. Mais disons que y avait à la fois le côté musique classique et puis d'un autre côté, c'était plutôt la chanson française. Georges Brassens, Jacques Brel, etc. Voilà. Et en fait, la musique classique, plus moderne aussi, est arrivée en fait plutôt par mon frère, qui m'a initié à toute la grande musique du début du XXe siècle, Ravel, Stravinsky, tous ces compositeurs qui m'ont beaucoup accompagné.
Sylvain Prudhomme, vous, qu'est-ce qu'on écoutait chez vous ? Quelle a été votre formation à l'écoute musicale ?
J'essaie de réfléchir. Là, j'ai beaucoup écouté de classiques. Je ne sais pas si mes parents en écoutaient tant que ça. Mais enfin, il y avait des disques, en tout cas, ils en écoutaient. Et après, je me suis mis à en écouter énormément. C'est beaucoup plus tard que je suis venu à des musiques comme par exemple à la musique dont on parlera
dont
tout à l'heure,
enfin, voilà, mais, bien sûr,
musique d'Afrique de l'Ouest ou je connais très peu la musique d'Amérique latine, un petit peu celle de Cuba, mais ça a été une découverte plus tardive, ça. Je l'ai pas reçu de l'enfance en tout cas. Enfin voilà, c'est venu après.
Comme pour moi.
Lucille.
On va vous écouter tout de suite au piano Thierry Pécou dans un enchaînement de deux courtes pièces. La première s'appelle Sonias Sencillos, ce sera la pièce numéro 2 du compositeur cubain Carlos Fariñas. Et la seconde est de vous, Dominica Reguet. C'est à vous Thierry Pécou. Au piano du studio 108 avec deux pièces, la vôtre, Dominica Reguet, et Sonias Sencillos de Carlos Fariñas. Qu'est-ce qui les lie, ces deux pièces? Pourquoi les avoir réunies et jouées comme ça, enchaînées l'une à l'autre?
Alors, en fait, il se trouve déjà que d'un point de vue tonal, elle s'enchaîne parfaitement parce qu'il y a une note polaire qui est le fa, qui fait que ça passait très bien. Mais en fait, c'est surtout que il se trouve que un des voyages qui m'a le plus marqué, ça fait déjà quelques années, mais c'était un peu un déclencheur justement de cette manière que j'ai de m'inspirer de culture non européenne. Ça a été un voyage à Cuba en 92, je crois. Et j'ai rencontré le compositeur, donc Carlos Fariñas, de façon très informelle pendant quelques minutes au Conservatoire de Cuba, de La Havane, pardon. Et une de ses élèves me l'a présenté. Il avait sur son bureau cette partition qu'il m'a donnée. Et j'ai toujours adoré jouer ces pièces pour moi à la maison. Et donc, ce sont des pièces qui sont. Comme ça, un peu des choses très détendues, sans grande prétention, et que je trouve très intéressantes parce qu'elles, pour un compositeur vraiment de musique d'avant-garde, il, sans aucun complexe, en fait, il travaille avec le folklore de son pays, la musique afro-cubaine, avec, dans une chose très très simple, des rythmes qui sont d'une grande complexité. Et pourquoi l'avoir lié avec le reggae que j'ai écrit par la suite, qui est une sorte de carte postale musicale que j'ai écrite lors d'un voyage, c'est que finalement que la démarche est la même, c'est-à-dire je me suis amusé à utiliser des rythmes très simples de reggae, très simples plutôt, en réalité assez complexes, mais que je traite à ma manière, dans un langage qui n'a rien à voir avec le reggae, mais tout en gardant vraiment les rythmes essentiels. Voilà, donc c'était...
Xavier Laporte, vous avez une question
pour... Oui, c'est une question idiote, mais je vous écoutais jouer et je vous regardais jouer aussi. Et j'étais étonné par le fait que vous avez besoin de votre partition aussi pour la pièce que vous avez composée. Je me disais, je ne sais pas, quand on compose une pièce, j'imaginais qu'on l'avait intériorisée au point de pouvoir la jouer à peu près par cœur, de l'avoir complètement incorporée. Ce n'est pas le cas.
Surtout que cette fois-ci, c'était vraiment sa pièce qu'il jouait, pas la fausse qu'on a écoutée
au
début.
Mais ce n'est pas Thierry Pécou depuis le début, vous avez quelqu'un d'autre.
Oui, je sais, ça semble parfois très curieux. Alors d'abord, moi, j'ai vraiment pas du tout de mémoire, donc pour moi, c'est très difficile.
La pièce qu'on a écoutée au tout début, c'était bien la fausse.
Peut-être.
Non. Et tu sais, il n'est jamais allé à Cuba, en fait.
non, mais c'est-à-dire, c'est vraiment une chose qui différencie les musiciens de tradition orale et tradition écrite, où on a toujours besoin de la partition parce que c'est un repère, c'est une sorte, quelque chose qui nous sécurise en fait. Et donc même quand c'est une pièce que j'ai moi-même écrite, déjà j'en écris tellement que je pourrais pas toutes les retenir, et voilà, je me sens plus à l'aise, que même si je la sais finalement au fond quasiment par cœur, de pouvoir la lire, ça me donne une sorte de sécurité intérieure, et je peux suivre mon discours musical plus facilement.
À propos de discours musical, on vous a demandé, comme à tous nos invités depuis le début de saison, de nous apporter un son qui vous a marqué, et voici celui que vous avez choisi, Thierry Pécou. Identification de ce son très étrange, Thierry Pécou, la raison pour laquelle vous l'avez choisi?
Donc c'est un rorqual, donc une baleine, je ne pourrais pas vous dire laquelle exactement, je ne suis pas encore assez spécialiste, mais il se trouve que c'est un domaine qui m'intéresse de plus en plus. D'abord j'ai fait l'expérience de voir les baleines, de naviguer entre elles dans différents lieux du monde, et quelque chose qui me fascine complètement depuis assez peu de temps, depuis un an à peu près, disons 2 ans. Et j'ai très envie d'explorer en fait ces mondes sonores, à la fois pour leur qualité esthétique, leur qualité sonore, mais aussi tout ce qu'il y a derrière, de l'imaginaire de communication entre ces animaux extraordinaires. Et je trouve que les musiciens sont beaucoup intéressés au monde animalier, mais plutôt aux oiseaux. Et qu'il y a là, du côté de ces mondes aquatiques, quelque chose qui peut s'ouvrir d'assez fascinant, que j'ai envie d'explorer.
Le rendez-vous, la chronique.
Thierry Pécou et Sylvain Prudhomme, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique Place de la Toile de Xavier Delaporte en collaboration et partenariat avec Rue 89, dont vous êtes le rédacteur en chef. Et ce soir, au programme donc, du bricolage.
Oui, parce que pour des raisons guère passionnantes et sur lesquelles je ne m'étendrai pas, j'ai vécu une semaine de quasi-déconnexion. Quasi seulement parce que je retrouvais Internet chaque soir, jusqu'au coucher, mais en concurrence avec les autres activités vespérales qui, comme chacun sait, ne comptent pas simplement la prière. Vous-même avez des activités vespérales étranges, Laurent.
Enfin, la prière.
Voilà, par ailleurs, pour d'autres raisons qui ne sont pas plus passionnantes et sur lesquelles je ne m'étendrai donc pas plus, j'ai fait cette semaine beaucoup de bricolage, ce qui est tout à fait inhabituel pour moi. Je voudrais donc vous faire partager les conclusions de cette expérience, soit beaucoup de banalités sans doute pour les gens dont la combinaison entre déconnexion et travail manuel sont le quotidien, mais après tout, si on avait peur d'être banal, on ne parlerait pas ou peu. D'abord, cette situation de déconnexion est donc très rare, même pendant les vacances, en tout cas pour moi. Je me suis donc vidé l'esprit. Enfin, je dis vider l'esprit, mais il s'agit d'une concession au sens commun. En réalité, c'est autre chose qui s'est passé. Mon esprit a été plein, mais occupé en priorité par une succession de petites tâches, de gestes, d'agencements minimaux et très matériels. Mon esprit a été plein de menus travaux qui s'accomplissent et ont une fin. Ça paraît bête, mais pour des gens qui travaillent comme moi sur un support numérique, hein, parce que rue 89, comme vous le dites, rue 89, comme ça avec un air un peu comédie française, c'est un site d'information, pas un journal imprimé, la différence est énorme. Donc le lieu commun, notre lieu commun, c'est l'inaccompli et l'infini. C'est notre lot quotidien. Sur Internet, tout peut se modifier, être mis à jour, compléter. Un article à peine mis sur le site est soumis à la discussion, à l'évolution des faits, aux commentaires des lecteurs. Il est toujours susceptible d'être amendé. Par ailleurs, un site Internet est en soi une sorte d'organisme en constante évolution et donne à ceux qui en ont la responsabilité le sentiment de sculpter une matière vivante qui a sa logique propre et qui réagit aux actions qu'on lui impose. Ainsi, cette somme de petits accomplissements réalisés cette semaine m'a plongé dans une sorte de sérénité, eh oui, que j'ai trouvée à la fois agréable, reposante et, j'avoue, un peu ennuyeuse. Ensuite, du fait que ces petits travaux nécessitaient un engagement physique, minimal hein, certes, mais enfin quand même, ils m'ont plongé dans un drôle d'état. C'est un état différent de celui du sport qui produit un effort plus ponctuel en général, sauf quand on est sportif professionnel. Là, il s'est agi de trouver des positions, de porter, de déplacer, de tendre les bras, de visser, etc. Et de le faire plusieurs jours d'affilée.
Et qu'est-ce que vous avez fait ?
Bah, du bricolage. Il a fallu donc faire avec les petits mots associés à ces gestes, et notamment ceux qui touchent aux mains et aux doigts, ces poignées endolories, pouces frappés par un marteau, majeur entaillé par une vis qui dépasse, j'en ai la preuve ici même. Et du coup, quand je retrouvais le clavier le soir, pour écrire cette chronique hein, par exemple, je trouvais à son contact un sentiment de naturel et de fluidité dont j'ignorais qu'il pouvait être si puissant. Comme son nom l'indique, le digital est fait pour les doigts, et chaque soir, taper des mots fut presque une réparation. J'avais jamais envisagé cette activité comme telle. Et puis, troisième point, ne pas être connecté, écouter peu la radio ou seulement en fond sonore, c'est être avec soi. Être sur Internet, même seul, c'est être avec les autres. Et pas simplement dans les réseaux sociaux. Internet, c'est un outil de mise en relation. Mise en relation des ordinateurs, d'abord, ça c'est le premier Internet des années 60. Puis de ce qu'ils contiennent, ça c'est le web, hein, la mise en lien des fichiers les uns avec les autres. Il n'y a d'Internet que parce qu'il y a d'autres gens. Être sur Internet, c'est entrer dans une vaste conversation, même quand on ne fait que naviguer sur Wikipédia ou des sites porno. Or, même si on entretient un rapport très fort au matériel, face à des objets hein, qu'on montre, qu'on agence, etc., on est avant tout avec soi. Ce qui est à la fois intéressant, un peu lassant, les autres ayant au moins l'avantage du nombre et de la variété. Dernière chose étonnante, on expérimente une autre sélection des événements du monde. Non qu'ils ne nous arrivent pas, c'est des événements du monde, mais ils arrivent différemment. Différemment parce que groupés à certains moments et non plus en continu comme nous y sommes habitués maintenant, notamment par les notifications de push, etc. Donc, au lieu de se chasser les uns les autres, de tourner en boucle de manière quasi identique, pendant ce temps où les événements n'arrivent plus, ils ont quand même une vie. Ils imprègnent, ils changent de forme, ils muent, ils se prolongent. Et je me suis aperçu que ça crée de nouvelles hiérarchies, en tout cas des hiérarchies différentes. Parce qu'un événement qui frappe sur le moment n'est pas le même que celui qui va nous habiter quand on lui laisse le temps de le faire. Par exemple, si j'avais été connecté, le procès du Carlton m'aurait sans doute beaucoup occupé. Alors que ce qui a tourné en boucle dans ma tête, eh ben c'est une brève à peine entendue à la radio, encore une centaine de migrants morts en Méditerranée.
Des réactions de la part de nos invités sur cette culture ? Oui, Sylvain Prudhomme ?
Non, je partage le constat que le bricolage est une façon assez merveilleuse d'être avec soi. Moi, j'aime ce moment-là quand j'entends que des amis sont en train de repeindre leur appartement. Enfin, comment dire, découpent dans le temps une espèce de parenthèse où ils suspendent un peu toutes les autres activités pour se consacrer à ça. Ça m'est arrivé il y a plusieurs années de passer un mois comme ça et j'en ai un souvenir d'une intensité, enfin de quelque chose, et avec la radio dans ces moments, mais que sinon on écoute toujours un peu, moi je sais pas, je podcast des choses, mais ça va vite, on est pressé, j'écoute, là on s'abandonne, on peint, plus que, et sinon moi j'ai regardé effectivement l'affaire Carlton, depuis 2 jours je regarde ça, c'est vrai que c'est un peu, pff, Voilà, j'aurais préféré bricoler presque.
Xavier Delaporte parlait du fait que sur Internet, tout pouvait être modifié, notamment les articles. Est-ce que vous, Thierry Pécou, vous êtes revenu sur vos compositions, par exemple ? Est-ce que vous les avez corrigées ou c'est, quand elles sont finies, c'est vraiment fini ?
Oui, enfin moi, je sais qu'il y a des compositeurs qui corrigent beaucoup, qui reprennent beaucoup. Moi, pas trop. Mais en fait, au moment où elles sont jouées, par exemple, entre le moment où elles sont terminées puis le moment où il y a les premières exécutions, il y a souvent des corrections, effectivement, qui sont des reprises. Après, sur les pièces qui sont très anciennes, parfois, je suis tenté de le faire. Et souvent, je me retiens parce que je me dis, ça appartient à une autre époque, à un autre mode de pensée où j'étais à l'époque. Et peut-être qu'il faut la laisser simplement comme c'était là. Mais c'est toujours très difficile à évaluer en fait.
Le rendez-vous.
Plateau Bissau avec vous, Sylvain Prudhomme, écrivain. Vous publiez cette année votre quatrième roman, Les Grands, dans la collection L'Arbalète de Gallimard. Nous sommes en 2012 à Bissau, en Guinée. Et Couteau, le héros du roman, apprend une mauvaise nouvelle. C'est la mort de Dulcé, la chanteuse du Super Mama Jumbo, groupe emblématique des années 70 auquel il appartient et qu'on entend derrière nous. Et ce jour de la mort de Dulcé, c'est aussi celui du second tour d'élection présidentielle inédite, puisqu'un candidat est bien placé pour battre enfin le grand héros de l'indépendance guinéenne, le major des armées Gomez. Mais c'est aussi le jour du grand concert du Super Mama Jumbo avec les membres qui restent et les nouveaux venus. Super Mama Jumbo, c'est un vrai groupe qui a écrit la bande-son de l'indépendance avec un énorme succès dans les années 70. Quand vous l'avez entendu, vous, pour la première fois, pour en faire aujourd'hui un roman ?
Alors, tout simplement, pendant les deux années où j'ai vécu tout près de la Guinée-Bissau, j'habitais la Casamance, donc au sud du Sénégal. Et c'est vrai que j'écoutais cette musique tout le temps. Je l'ai découverte à ce moment-là et ouais, voilà, ça m'a accompagné ensuite beaucoup. Au moment d'essayer j'avais envie de revenir sur tout ce temps passé là-bas, d'essayer de condenser les expériences que j'avais, amassées et tout ce que j'avais ressenti là-bas. Et je me suis dit que cette entrée par une musique qui me touchait profondément était une façon peut-être de raconter un peu cet endroit, son histoire.
Lucille.
Vous avez enquêté là-bas en quelque sorte. Dans quelles conditions est-ce que vous avez rencontré les différents membres du groupe ?
Alors, il y en a un, Sherifo Banora, qui est un des anciens guitaristes historiques du Mama Jumbo. Il habitait la ville où je vivais moi aussi, Ziguinchor. C'était vraiment un très bon ami que j'ai rencontré moi par mon travail, qui était de programmer des concerts. Donc, j'étais beaucoup au contact de musiciens de là-bas. Et voilà, il y avait ce Sherifo dont j'ai petit à petit compris qu'il avait été une gloire de la musique africaine et qui vivait une vie vraiment très, très modeste aujourd'hui, ne jouant presque plus jamais, n'ayant plus vraiment de guitare. Et voilà, sa trajectoire me touchait, c'était ça que j'avais envie de raconter, autant que l'histoire du Mama Jumbo, c'était ce genre de parcours de vie, quoi, cette grandeur qu'il avait connue, et là, le fait qu'il était dans la ville, il était salué par tout le monde comme un ancien grand, quoi, voilà, que c'est mais d'où le titre, mais en même temps, il était vraiment sans le sou, quoi.
Les morceaux du Super Mama Jumbo sont souvent très longs avec des effets de répétition et des solis qui se succèdent un peu comme dans un morceau de jazz. En quoi la construction même de votre roman devrait quelque chose à cette forme-là ?
Alors, j'ai pas cherché à composer le livre comme un morceau du groupe, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai essayé d'être à l'écoute d'une couleur musicale. Enfin, de là, dans le morceau qu'on entendait tout à l'heure, il y a une espèce de douceur, de côté un peu... Il y a à la fois du feu, de l'élégance, et en même temps de quand même un peu de mélancolie, un truc comme ça qui descend un peu, qui traîne. Et ça, j'ai essayé de le faire passer dans l'écriture. Donc j'ai voulu que ce soit juste une soirée comme ça et qu'elle glisse doucement, le personnage erre, se promène, et qu'on aille vers le moment un peu du concert final, avec une sorte de remontée vers une forme de joie à partir de la nouvelle initiale du deuil. Voilà.
Oh, c'est une liberté.
Lucille.
Dans une note à la fin du roman, Sylvain Prudhomme, vous citez les noms des membres du groupe, dont certains sont partis, certains sont en Europe. Par exemple, le chanteur Malam qui est exilé à Paris. Vous dites qu'en Europe, les guitaristes africains s'en sortent mieux que les autres, mieux que les chanteurs, par exemple. Comment vous l'expliquez ?
C'est comment dire, une sorte de théorie qui vient dans l'écriture là, à un moment où je compare effectivement le destin de deux musiciens du groupe qui sont émigrés en France, et y a un guitariste qui aujourd'hui a réussi à retrouver ce qui s'appelle John Mota et qui est aujourd'hui le guitariste d'Angélique Kidjo, donc il a réussi à retrouver une place. Et c'est vrai qu'un chanteur, il me semble que c'est plus vulnérable dans la mesure où au moment d'arriver, s'il n'a pas de musicien pour l'accompagner, il faut qu'il prenne la place d'un autre chanteur peut-être, enfin s'il n'a pas de sous non plus pour former autour de lui un orchestre. Je vois que c'est dur, enfin voilà, et Malan dans son pays, c'est un héros, tout le monde connaît sa voix par cœur, toutes ses chansons par cœur, et en France, voilà, sa vie est moins connue, enfin elle est beaucoup moins connue.
Thierry Pécou, vous avez un lien avec cette musique ? Vous écoutez un petit peu ?
Pas très direct, je connais très peu l'Afrique en réalité, curieusement, parce que c'est vrai que c'est un peu un des points du triangle, on pourrait dire. Et moi, je me suis beaucoup plus intéressé aux musiques afro-américaines. Et je connais mal les sources. Et puis, je suis plutôt fasciné par les polyphonies de tambours au Sénégal, par exemple. Il y a des choses assez étonnantes. Mais en même temps, j'aime beaucoup ces musiques. Et effectivement, je trouve qu'il y a toujours cette association de grande douceur et en même temps de quelque chose qui pétille et même qui foisonne justement dans tout ce qui est rythmique.
Lucille.
Vous avez grandi entre le Cameroun, le Niger, le Burundi, après il y a eu le Sénégal. C'est étonnant pour un Français de choisir un pays justement qui n'est pas francophone mais lusophone, un des rares pays d'Afrique lusophone.
C'est vrai. Alors, je pense qu'il y a des raisons liées à l'attrait qu'exerçait sur moi ce pays, enfin au plaisir que j'avais à aller m'y promener, à la beauté de sa langue, enfin le créole, ce créole lusophone justement. Et il y avait aussi clairement une raison là pour le coup qui ne tenait pas à la Guinée-Bissau, qui tenait à l'envie d'être ailleurs que dans un pays justement dans une ancienne colonie française entre guillemets. Enfin voilà et l'envie de. Mon livre précédent se passait en Algérie et traitait. Vraiment beaucoup de cette question de l'histoire commune, enfin des liens entre les deux pays, de tout ce qui reste d'animosité, enfin j'avais envie là de faire un livre qui soit un peu sans la France, je sais pas, et même d'ailleurs sans narrateur français. Enfin, je sais pas, moi, j'apparais pas du tout dans le livre. C'est pas, j'aurais pu faire une enquête ou un documentaire.
Ça commençait comme ça d'ailleurs. Le projet au départ, c'était plutôt un documentaire. Enfin, pas un documentaire, mais véritablement une enquête, oui. Et c'est l'éditeur qui vous a plutôt orienté vers la fiction.
Alors. C'est pas l'éditeur, c'est-à-dire que dès le départ, j'ai jamais voulu faire un livre où je me serais promené, j'aurais raconté mes rencontres avec les musiciens. J'avais envie d'un peu de, je trouve ça encombrant maintenant de plus en plus le jeu, oui, enfin voilà, en tout cas
le journalisme gonzo, oui.
Moi je sais qu'en tout cas dans ma pratique, je vois que ça me on est un peu après, on est aussi prisonnier du fait qu'on est là au milieu ce jeu, et il faut du coup rendre compte des rapports qu'on a avec les différents interlocuteurs et tout. Et là vraiment, moi j'avais envie que ce soit une espèce de traversée de l'ambiance là-bas, de la ville. Et donc voilà, très vite ça c'était dès le départ, enfin il y avait le personnage était un des guitaristes du groupe, c'est un peu le Sherifo Banoura que je connaissais très bien, mais il a un autre nom dans le livre, et Sherifo apparaît sous son vrai nom par ailleurs, mais c'est vrai que la fiction s'est imposée tout de suite. Après elle s'est étoffée après, à mesure que l'éditeur a peut-être encouragé ça, en tout cas m'a dit n'aie pas peur, parce que je dis ça tout simplement parce que moi j'avais, c'est la première fois finalement que j'écris un livre de fiction véritable, enfin j'en ai
de
fait
fiction
un
fiction documentée
de fiction documentée, mais enfin en faisant ce saut dans le vide de malgré tout, d'inventer pour cette soirée-là tout un itinéraire à un personnage, de lui inventer un passé aussi, une histoire d'amour qui n'existe pas en réalité. Au début, je trouve ça assez vertigineux, là, ce qu'on ressent. Il y a une espèce de fragilité de ça, des discussions. Je sais pas comment dire. Moi, j'avais une sorte d'incrédulité de savoir si ça, est-ce que ça passe, est-ce que ce qu'on ressent en l'écrivant, le fait d'être pris dans, forcément, si on s'embarque dans une fiction, c'est qu'on on y adhère, on est soi-même porté par ce qu'on est en train d'écrire. Et il y a l'inquiétude de savoir si on reçu par quelqu'un, l'intensité est là aussi, voilà. Et c'est juste ça qui était la découverte un peu du... Pour moi, en tout cas, ça a été une découverte, parce que le précédent livre était absolument inspiré d'une histoire vraie et tout ça.
Sylvain Prudhomme, le roman ouvre sur une expression créole, « y mourir », elle est morte. C'est une langue que vous écrivez à plusieurs reprises ensuite. Qu'est-ce que votre écriture doit à cette langue-là ?
Je pense que ce qu'elle doit, je dirais peut-être une espèce de ton un peu descendant, comme ça, que j'essayais de... la imori... La plupart des... Là-bas, des conversations, je trouvais, prennent une forme comme ça, un peu... Il n'y a pas souvent de point d'exclamation ou de point d'interrogation, comme ça, ça coule, je dirais qu'il y a quelque chose d'assez descendant, j'ai pas d'autre mot qui me vient, et j'essayais aussi de respecter ça dans la... Même dans les dialogues, qui sont des dialogues assez simples et sans... j'aime pas ponctuer les dialogues. J'aime que les énoncés, les voix soient dans cette indétermination, sans sursignaler les questions, les exclamations, avec une forme de... Dans un premier temps, d'indétermination sur la nature exacte de ce qui a été... de ce qu'on entend, qui a dit quoi. Et après, j'ai voulu mettre du créole dans le livre. Il y en a des paroles de chansons, des mots qui me touchaient beaucoup en créole.
Vous êtes d'accord avec cette analyse sur la sonorité déclinante, on va dire, du créole ?
Je m'interrogeais justement en écoutant.
Créole lusophone.
Oui, c'est ça. Après, les créoles peuvent être très différents. Ouais. Alors moi, je ne parle pas créole, je le comprends à peine, en tout cas celui des Antilles. Mais oui, non, j'aurais pas pensé à ça. En même temps, je pense qu'il y a cet aspect, en tout cas, comme un des aspects de la langue, oui, c'est certainement.
Je dirais pas que j'ai un moment habité en Martinique pendant 3 ans. Je dirais pas du tout que je dirais pas ça du tout du créole antillais. Hein. Là, c'est juste.
Créole lusophone, ouais.
Je pensais c'est une langue très proche de celle du Cap-Vert, par exemple, des chansons de Césaria Évora, des Mornas, de toute cette musique, comme ça.
Avec une dimension de saudade, en fait.
Voilà, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ça. Il y a aussi le portugais qui est derrière. Voilà.
C'est ça.
Exactement. Lucille ?
Thierry Pécou, vous aimez beaucoup une phrase d'Edouard Glisson qui dit « Écrire, c'est dire le monde ». En quoi est-ce que sa littérature, pour vous, a pu être une référence à un moment ?
Alors, vraiment, c'est... comment dire ? Bon, comme je l'expliquais un petit peu brièvement tout à l'heure, j'ai fait un peu de mes voyages et de mes rencontres avec d'autres cultures, de mes confrontations, de mes amours aussi pour d'autres cultures, une sorte de parcours personnel, de mode d'expression, de mode de travail. Ça s'est fait comme ça, sans que j'y réfléchisse au départ. C'était quelque chose d'assez spontané, que je théorisais pas, que je cherchais pas à instaurer comme un précepte ou comme un principe. Et puis un jour, j'ai rencontré l'œuvre d'Edouard Glisson, assez tard, il y a peut-être une quinzaine d'années. Et là, en lisant Glisson, c'était comme si j'avais l'impression de comprendre ce que j'étais, moi, en musique, en train d'essayer de faire. Et donc, ça m'a donné une espèce de clarté pour moi-même en tant que compositeur, dans ma démarche, au fond. Et à partir de là, du coup, ça, c'est le rapport s'est un peu inversé. C'est-à-dire, du coup, la poésie, la pensée de Glisson est devenue aussi une source d'inspiration pour les œuvres qui ont suivi.
Sylvain Prudhomme, on vous a demandé à vous aussi un son, et voici ce que vous avez choisi. Identification de ce son, Sylvain Prudhomme, et la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
Alors c'est Alexandre Tarot, dont on parlait tout à l'heure, qui joue Les ombres errantes de Couperin. Et c'est vrai que c'est une musique que j'ai énormément écoutée et dont j'aime cette espèce de calme profond. Et on a l'impression, là on parlait tout à l'heure de la solitude dans le bricolage, là on a l'impression que c'est une musique qui est presque ne se soucie pas de savoir si quelqu'un est là pour l'écouter. Enfin, et je trouve qu'il y a une une façon de chercher, de tâtonner, et en même temps avec cet tourbillonnement, une ivresse un peu, je sais pas, moi ça correspond profondément à ce que je cherche même dans les livres, une forme de... Il y a à la fois une gravité, il y a toute la, je sais pas comment dire, toute la gravité de la vie en même temps qui est là, et une grâce qui j'aime pas les livres abattus, et là il y a pas, ça se tient avec, et en même temps toute la gravité est là, je trouve, voilà. Je sais pas ce qu'en pense Thierry, parce que
Thierry, qui a écrit une pièce d'ailleurs après Rameau, une sarabande.
Oui, non, premièrement, je trouve magnifique d'entendre les écrivains parler de musique, parce que je trouve qu'ils perçoivent justement ce qu'il y a au-delà de la forme, et voilà ce qui est l'essence même de la musique. Et voilà, et oui, effectivement, Rameau, c'est aussi un autre compositeur à peu près de la même époque, un peu plus tardif, mais
source d'inspiration aussi. Merci à nos invités. Thierry Pécou, vous serez en concert samedi prochain à la Maison de la Radio, ici même, donc dans le cadre de la 25e édition du festival Présence de création musicale de Radio France. Sylvain Prudhomme, Les Grands, apparu aux éditions L'Arbalète Gallimard. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et demain ?
Journée mondiale de la radio, France Culture est sur FIP.
Et FIP est sur France Culture, bref, on est senti dessous.
Ce sera une édition spéciale Paroles et Musique pour une journée France Culture FIP. Nous recevrons les FIPettes Émilie Blond-Metzinger et Frédéric Labussière pour FIP. Et puis de leur côté, on recevra aussi à leur côté plutôt Frédéric Laudéon de France Musique. Et quant à moi, je serai sur FIP demain de 14 à 15 heures pour une carte blanche musicale. Une heure pour programmer toute la musique que j'aime et je ne vais pas m'en priver. Il y a des annonces, Hippolyte ?
Traître. C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Aïssatou Endoy, Hippolyte Babilote, Journal de la Culture aux OSFES, Chronique Xavier Delaporte, à la prise de son Dofar Guéry de Jacques Hubert et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Il est 19h54, vous êtes bien sur France Culture. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous.